que la séance du conseil municipal est ouverte et je vais commencer par vérifier. Je crois qu'il l'est quand même visiblement, mais vérifier que le quorum est bien atteint. Donc je suis présent. Clotilde Lagoutte.
Présente.
Alain Véler. Présent. Stéphanie Charret. Présente. Didier Moreau. Présent. Marina Descotes-Galli. André Palancade. Présent. Anne-Marie Yolas. Présent. Claude Godard. Présent. Sylvie Galuchet. Présent. Roger Cyprès. Samira Boujidi. Jacob Nalouna. Simone Jérôme. Charles Murat est absent, excusé, et sera représenté par M. Palancade, Virginie Salitra, présente. Karine Jarry, présente. Michel Veu est absent, excusé, sera représenté par Roger Cyprès, Daniel Boudet, présente. Pascal Huet, présente. Pascal Huet est présent, et je vous propose de le nommer secrétaire de séance. Pas d'objection. Merci. Sandrine Nagel. Mehdi Ben Salem, Jean-Pierre Gabarou, présent. Monique de Villene, présent. Pierre Guillou est excusé, sera représenté par Pascal Docker, Catherine Devies, Serge Saussier, présent. Pascal Docker présent. Et Rachida Mouali. Donc, nous sommes suffisamment nombreux pour délibérer valablement. Donc, je vais vous demander d'approuver ou pas le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 14 décembre 2015. Y a-t-il une demande de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. Je le mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Y a-t-il des questions, des commentaires concernant les décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales du numéro 73 au numéro 82 pour l'année 2015? Monsieur Gabarou.
Bonsoir, monsieur le maire. Nous avons deux, trois petites remarques à faire. Nous aimerions savoir la situation de monsieur, parce que nous, donc, a-t-il trouvé donc un travail fixe et pourra-t-il bientôt bénéficier donc d'une donc je pense que c'est madame Jérôme qui va me répondre.
C'est exact.
Merci. Alors la situation, ça marche, oui. La site n'a pas trouvé de travail à l'heure actuelle puisqu'il est au chômage ayant été licencié au mois de septembre, travaillait aux pommes de terre. Mais, normalement, nous lui faisons une proposition de logement, donc il devrait passer en commission. Si sa situation, si le bailleur est d'accord, il devrait pouvoir quitter au 31 mars le logement où il est.
D'accord.
Si le bailleur l'accepte, bien sûr. Hein. Pour l'instant, c'est une proposition que nous lui faisons de F2.
D'accord. Donc là, pour l'instant, vous lui avez fait une prolongation de son bail.
Voilà. Jusqu'au 31 mars.
D'accord. Après, nous sommes tout à fait d'accord sur la décision 2015-082. Donc, le coût du marché est à 60 000 hors taxes. Mais par contre, je pense que nous allons refuser le montant TTC qui est de 720 000. Alors là, je pense qu'il doit y avoir un petit problème de 0 ou 2 virgule.
Vous êtes très regardant, je trouve.
Oui, mais excusez-moi, mais si on vous demande 720 000 euros, moi je veux bien.
J'ai signé ça, moi. Là, là,
là, là. Oui, il y a 72 et puis il y a 4 zéros, virgule et 2.
Ah, c'est pas mal. Oui.
Alors c'est peut-être le taux de TVA qui a changé.
Et j'ai effectivement signé ça, mais vous remarquerez que c'était le 29 décembre, je vais être fatigué. Voilà. On nous a rien dit, hein. Bon, c'est Atrium Cité qui va être content, mais oui. Ouais, c'est bon, il faudra procéder à une petite rectification. Merci de votre attention.
Et après, dans les conventions, donc on est d'accord sur le phénomène de compte sur la 2015 pédiatrie 265 pour les PAI, au sujet des PAI. Donc, comme quoi, donc, vous ne les mettez plus dans les conventions et elles sont consultables en mairie. Donc, même moi, j'aurais été plus loin dans le sens où j'aurais mis que les initiales plutôt que de mettre le nom de la personne de manière à ce que ça n'apparaisse pas. Donc, que la personne ne soit pas
d'accord.
Nommée.
D'accord.
Enfin, ça, c'est si vous êtes d'accord.
Non, je retiens votre proposition, ça va dans notre sens.
Ça va dans le sens de la discrétion
par rapport donc, à l'exercice du secret médical. Hein, voilà, tout à fait.
C'est tout.
Merci beaucoup. En ce qui concerne les logements communaux, pour compléter donc votre demande, votre questionnement concernant un logement d'urgence, je vous informe que nous avons émis un avis favorable concernant une demande qui nous a été faite par l'Éducation nationale de pouvoir mettre à disposition, alors moyennant loyer, hein, mais un logement pendant 6 mois, pendant l'année scolaire 2016-2017, à un assistant de langue, donc qui pourrait évidemment avoir quelques difficultés à se loger, puisque venant de Grande-Bretagne, le temps de présenter un dossier, bon, c'est pas du tout possible de le loger dans le logement social, et c'était une condition pour que la demande puisse être montée par la circonscription de Provins. Donc il s'agit d'un petit logement, donc très probablement l'un des deux logements d'urgence actuellement occupés. Donc c'est aussi notre volonté de ne pas laisser trop longtemps dans le logement d'urgence des situations. Voilà, donc ça allait dans le sens de ce que disait Madame Jérôme. Nous recherchons à chaque fois une solution pérenne de façon. Alors bon, nous aurons la possibilité de toute façon d'augmenter le nombre de logements, puisque le logement qui est situé à côté des deux logements d'urgence qui étaient occupés par la compagnie KMK a été libéré. Nous avons besoin de quelques travaux de réfection. Et voilà, oui, j'avais complètement bougé dit, j'avais pas noté que vous n'aviez pas répondu présente. Voilà, on l'avait noté, hein, monsieur. Il semble que le train a eu quelques difficultés à circuler ce soir entre Paris et Nangis. Enfin, ce soir et puis régulièrement. Donc voilà, on peut dire qu'on a ce souci et évidemment et à la fois d'avoir des logements d'urgence et d'essayer de les conserver un peu libres pour pouvoir faire face à des situations imprévues. D'accord, mais je vous propose donc d'entamer l'ordre du jour avec la délibération 2016 janvier 001. Comme c'est une délibération qui me concerne, j'indique comme la suivante que je ne participerai pas au vote. Et c'est Madame Claudette Lagoutte qui va vous les présenter.
Merci, Monsieur le maire. Cependant, vous pouvez bien entendu participer au débat si vous le désirez, même si vous ne votez pas la délibération. Donc la délibération 001. Constitution de partie civile de la commune suite à l'agression d'un élu. Dans la nuit du 25 au 26 décembre 2015, Monsieur le maire de Nangis a été prévenu de tapage nocturne sur la place du Pont Perrault. Lors de son intervention, il a été pris à partie par les auteurs de ces troubles en sa qualité d'élu et a subi des agressions verbales de leur part, et son véhicule a été endommagé par des jets de projectiles. Monsieur le maire a immédiatement contacté la gendarmerie et a attendu leur intervention en restant sur place. Une plainte a bien été déposée auprès de celle-ci à titre personnel, puisque cette agression porte sur la fonction de maire, premier magistrat de la commune et représentant de la municipalité de Nangis, comme l'attestent les faits, la commune a la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des auteurs du délit. Conformément aux articles L21-23-1 et L21-32-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune, tandis que le maire, en vertu de la délibération du Conseil municipal, représente la commune en justice. bien que le conseil municipal a délégué au maire la possibilité d'ester en justice en application de l'article L2122-22 du même code, délibération municipale numéro 2014-35 du 4 avril 2014, il n'est pas prévenu les actions avec constitution de partie civile. À ce titre, dans cette délibération, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à porter plainte avec constitution de partie civile pour les faits qui ont été exposés précédemment, de désigner le cabinet d'avocat qui sera, comme vous l'avez pu le voir dans le projet de délibération, le cabinet Gaïa, qui représentera et défendra les intérêts de la commune dans cette affaire, et enfin d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte afférent à ce litige. Voilà. Y a-t-il des observations? Monsieur Gamard.
Donc, la constitution de partie civile de la commune, donc nous sommes entièrement d'accord et justifiés suite à l'agression d'un élu. Mais on mettra simplement une condition, c'est à condition que la note explicative qui nous a été communiquée reflète la stricte vérité. Donc nous sommes d'accord sur le principe.
Oui, on ne comprend pas bien l'observation. Vous pensez qu'on ne dit pas la vérité sur la notice explicative?
Non. Simplement, il faut que ce soit la vérité. Il faut être certain.
C'est quoi la stricte vérité?
De toute façon, il y a eu un dépôt de plainte. Donc ensuite, les avocats vont travailler avec la plainte qui a été déposée par monsieur le maire. Hein.
D'accord.
C'est pas une réponse, monsieur Gavarou. Moi, j'aimerais avoir une réponse jusqu'au bout. C'est quoi la stricte vérité?
Dans le sens où il faut que ce soit par rapport à la plainte qui a été déposée, que ce qui nous a été expliqué là soit exactement ce qui a été déposé à la gendarmerie. C'est pas toujours ça, c'est pour ça.
Monsieur Lalouna.
Oui, je voulais juste préciser que ce jour-là, le maire était d'astreinte. Donc,
Oui, non, mais nous sommes tout à fait d'accord. Hein.
Okay.
Nous sommes d'accord pour la donner. Hein.
Merci.
Monsieur le maire.
Oui, enfin bon, Je ne le relèverai pas le sujet. Je tiens simplement à préciser effectivement que ce sont bien les motifs qui ont été relevés dans la plainte. Il y a également dans la plainte une agression physique sans incapacité temporaire de travail, puisqu'il s'agissait d'un jet de liquide. Donc, voilà. Donc bon, la question, c'est que le physique de M. Biou n'a pas tellement souffert de ce souci-là. Ce qui est important, c'est que clairement, le maire était identifié. Ça c'est plus grave, et que malgré qu'il soit identifié, donc il a été malmené. Donc, au-delà de ma personne, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas rester en l'état. Hein, donc, alors certes, on pourrait me dire que je n'avais pas à me présenter seul devant un groupe d'individus. Mais, bon, très honnêtement, mon intervention n'était ni musclée, ni vindicative, simplement une prise de contact, qui a priori, pour des raisons qui m'échappent encore, a vite mal tourné, avec d'abord des insultes de la part d'un individu qui n'est plus tout jeune, hein, qui a quand même une trentaine d'années, plutôt bien connu, à Nangy, visiblement qui a dû déclencher les autres individus présents et que je n'ai pas tous reconnus, sans doute d'en rajouter un peu à leur tour. Mais bon, là, c'était quand même la première fois où on avait à déplorer sur la place du Pont Perrault ce type d'agissement, du tapage. On en a, c'est clair, avec de la concentration, mais jusqu'à maintenant, on n'était pas allé jusque-là, et il ne me semblait pas, en plus, avoir affaire à des gens qui étaient alcoolisés. Donc, voilà, c'était plutôt des gens qui ne l'étaient pas, même s'il y avait quelques buveurs de bière, mon épaule l'atteste encore, la plupart ne... n'avait clairement pas bu. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres consommations ? Ça, j'en sais strictement rien. Je ne suis pas habilité à le faire. Donc, voilà. Donc, mon attitude a consisté quand même, lorsque j'ai reçu un jet de bière, à dire que dans ces cas-là, effectivement, il n'y avait pas de possibilité de discuter. Et donc, ils auraient à le faire avec, avec la gendarmerie. J'ai regardé mon véhicule, le temps de m'asseoir, de démarrer, et là j'ai deux individus qui ont jeté des bouteilles contre ma voiture. Il y a trois impacts. C'est pas bon, voilà, c'est pas à la fois sur les faits, c'est pas d'une gravité extraordinaire. Sur la cible, oui, clairement. Voilà, et ça, ça on ne peut clairement pas le laisser passer. D'où la proposition pour la commune de se constituer partie civile, ce qui permettra au conseil municipal quelque part d'avoir accès aux pièces du dossier et qui vous permettra de voir si les faits sont réels ou pas. Autrement, on aurait pu se contenter effectivement simplement de la plainte de Michel Billoux qui a été enregistrée comme étant celle de Michel Billoux en sa qualité d'élu. Hein. Mais il me semble que de ce point de vue-là, il est important que les choses n'en restent pas là, même si les peines encourues ne sont pas des peines. Mais voilà, on est sur. Et je dirais que vous l'avez entendu dans mon discours des vœux à la population. Je pense que nous ne pouvons pas laisser la place du Pompéro dans cette situation d'occupation relativement importante. Je précise qu'à ce moment-là, aucun des commerces de la place du Pompéro était ouvert. Tout était fermé, était plutôt tranquille, et on avait affaire à la fois à des gens qui parlaient sans doute un peu fort et à des déplacements de véhicules relativement importants, donc qui devaient finir par gêner le voisinage. La place du Pompéro est une place qui est très mal éclairée. Je pense qu'en essayant de remettre un peu de lumière, on éviterait peut-être les zones d'ombre un peu propices à certains rassemblements. Et vous m'avez entendu parler effectivement sur le développement du réseau de vidéos. Donc nous travaillons placer quelques caméras sur cette place, puisque nous sommes propriétaires d'un bâtiment public, ce qui nous permettra d'utiliser une autre technologie, simplement d'avoir des enregistreurs dans le bâtiment et d'éviter ce qui nous pose... problème, la transmission hertzienne sur les autres systèmes de caméras, ça de telle façon à ce qu'on puisse redonner un peu de tranquillité donc aux habitants de cette place et des abords.
Merci. Y a-t-il d'autres observations avant que l'on puisse mettre aux voix cette délibération ? Non, donc je vais la mettre aux voix. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Cette délibération est votée à l'unanimité. Donc je vais vous présenter la deuxième, qui là, celle-ci, a pour objet l'attribution de la protection fonctionnelle pour le maire. Je ne vais pas revenir sur les faits, puisque c'est les mêmes. Comme vous avez pu le voir, on a rappelé les mêmes faits au départ. Donc, puisque cette agression porte sur la fonction du maire, premier magistrat de la commune et représentant de la municipalité de Nangis, comme l'attestent les faits, l'intéressé sollicite aussi la protection fonctionnelle de la collectivité territoriale en application de l'article 21-23-35 du Code général des collectivités territoriales. En application de cet article, la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion du fait de leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. À ce titre, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accorder, cette fois-ci, la protection fonctionnelle de la commune à M. Michel Billoux, maire de Nangis. Donc, y a-t-il des observations ? sur cette deuxième délibération. Donc je vais la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est votée à l'unanimité. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, délibération 2016 janvier 003. Ben, malheureusement, nous restons un peu dans le sujet, puisque par un courrier en date du 11 janvier 2016, informe le maire qu'il a été agressé verbalement et a reçu des menaces à son domicile dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il a immédiatement porté plainte à gendarmerie à l'encontre de l'auteur de ces violences et a fourni une copie du procès-verbal d'audition. À ce titre, et conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, on demande à pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle accordée par la collectivité contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages et par conséquent la réparation du préjudice qui en était résulté. Bon, j'aurais pu procéder par décision, mais par souci d'équité, je dirais, avec les premières, je soumets cette décision donc à l'appréciation du conseil municipal.
Excusez-moi. Nous posions aussi des questions. Pourquoi avoir spécifié le fils? Est-ce qu'il y a un problème de relation hiérarchique entre le...
Oui. Oui, oui. Voilà.
Donc, c'est la question qu'on se posait. Pourquoi?
Parce que c'est effectivement en relation avec le fait que la maman de ce jeune homme travaille au restaurant municipal. Hein, qu'il y a eu, je dirais, vous connaissez tous comme moi, monsieur. Vous imaginez bien que lorsqu'il y a un désaccord avec un agent, ça reste dans une mesure extrêmement humaine. Voilà, mais il y a sans doute, je dirais, des problèmes d'ordre médicaux qui font que sans doute les faits ont été relatés d'une certaine façon au domicile et que ça a provoqué la réaction d'un jeune majeur. Dans tout état de cause, c'est une réaction qui est totalement inacceptable, disproportionnée.
Oui, on est tout à fait d'accord. Mais voilà. À ce moment-là, est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre qu'il y avait que c'est...
Bah, écoutez, il faut bien que je vous donne quelques éléments, quand même, d'appréciation. Voilà, je ne vous donne pas le nom de l'agent, je vous dis qu'il y a une relation. Bon, je suis obligé de noter quand même qu'on l'accorde à X. Voilà, donc on essaie à la fois de vous donner quelques informations sans en même temps aller plus loin dans l'établissement des faits pour que l'enquête suive son cours, que nous n'interférions pas dans cette enquête. Et en même temps, je veux redire ici toute notre solidarité à l'égard d'un directeur de l'un de nos services, hein, confronté à des problèmes, je crois, qui sont liés un peu à l'ambiance du moment, quoi, hein, où on se laisse aller rapidement à une attitude violente. Ah, mais si je vous donne pas un minimum d'éléments, c'est un échec en blanc. Hein, donc, quand même pas vous demander de m'accorder votre confiance comme ça. D'autres questions? Je mets la délibération aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est accordée. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Et je vous remercie. Nous allons continuer par la délibération 2016 janvier 004 concernant l'adhésion aux prestations ressources humaines proposées par les services Pôle Carrière du Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne aux collectivités affiliées. Ce n'est pas une première délibération de ce genre, c'est la délibération annuelle. Monsieur Alain Véler.
Merci Monsieur le maire. Eh bien, comme vous venez de le dire, effectivement c'est une délibération qui revient tous les ans. Il s'agit effectivement de d'avoir recours aux prestations dans le cadre des ressources humaines, prestations qui sont mises à disposition contre, effectivement, rémunération, cela va de soi, mises à disposition des collectivités, et cela dans 5 domaines. Comme il est noté dans la note explicative, l'atelier du statut, atelier CNRACL, prestation assurance perte involontaire d'emploi, prestation examen du dossier individuel et prestation examen des droits et simulation de pension retraite. Pourquoi effectivement avoir recours à ces prestations ? Eh bien tout simplement parce que nous avons au centre de gestion des services qui sont extrêmement pointus sur toutes ces questions-là. Et qui évite à nos agents des ressources humaines qui ont déjà beaucoup de travail et qui le font parfaitement bien, mais qui leur évite de faire des recherches de leur côté qui leur prendraient énormément de temps et d'avoir des réponses très très rapides. Donc les tarifs 2016, ils sont présentés dans le projet de délibération. Je ne vais pas vous les lire, vous les avez sous les yeux, mais effectivement, ils comportent les 5 domaines dont nous avons parlé, que vous avez sous les yeux, et en particulier également les 6 domaines, pardon, en y rajoutant la prestation assurance chômage. Donc vous avez les forfaits par dossier instruit, forfaits par participant. Ce sont soit effectivement des forfaits, soit des taux horaires d'intervention et qui se déroulent soit au centre de gestion, soit en intra, comme il est indiqué sur le tableau que vous avez en annexe à l'article 1 de la délibération 004.
Merci Monsieur Veller pour présentation extrêmement précise. Y a-t-il des questions, des observations ?
Les prix sont hors taxe ou TTC ?
TTC,
oui. TTC.
Peut-être qu'on le précise. Mais... Voilà. On va rajouter dans le tableau tarif 2016 TTC. Bien. Sous réserve de cette modification, je mets la délibération aux voix. Alors, c'est ni hors taxe ni TTC, puisque le centre de gestion n'est pas assujetti à la TVA. Il faudra peut-être qu'on l'indique quelque part. Non, ça va de soi. Oui, mais c'est.
Oui, c'est ce qui est payé.
Oui, d'accord. Est-ce que, ce serait intéressant peut-être d'indiquer sous le tableau que le centre de gestion n'est pas assujetti à la TVA. Ça, c'est précis. Et... Merci beaucoup. Donc, je peux mettre aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je laisse la parole à M. Veller qui va nous présenter le tableau des effectifs du personnel territorial pour l'année 2016.
Merci M. le maire. Eh bien, effectivement, de la même manière que nous avons dans la délibération 004 une adhésion annuelle aux prestations RH, dans la délibération 005, nous avons là aussi une présentation annuelle. Pour l'année 2016, donc, le tableau des effectifs du personnel territorial. Comme il est précisé, très simplement, ce tableau qui est chaque année mis à jour, recense à la fois les effectifs budgétaires et, d'autre part, les effectifs réellement pourvus. C'est pour cette raison que vous avez sur le projet de délibération qui vous est soumis l'ensemble des grades ou emplois dans chaque filière administrative, technique, sportive, culturelle, police municipale, médico-sociale et animation, c'est-à-dire les filières qui sont celles des effectifs territoriaux à Nancy. Vous avez dans la deuxième colonne, dans la colonne suivante, la catégorie, bien évidemment, soit A, soit B, soit C, chacune de ces filières, l'effectif budgétaire qui est retenu et les effectifs pourvus en fonctionnaires, qu'ils soient titulaires ou stagiaires. Si je prends un exemple, effectivement, rédacteur principal de première classe, catégorie B, 6 dans l'effectif budgétaire et 3 dans l'effectif pourvu, puisqu'il n'y a que, pour ce grade, il n'y a que 3 agents qui sont titulaires de ce grade-là et qui sont dans la collectivité. On pourrait effectivement nous faire remarquer que dans certains cas, nous pourrions, eu égard aux effectifs pourvus, diminuer les effectifs budgétaires, ce qui en fait n'a aucune incidence sur le budget, hein. C'est clair et net, mais ça nous évite à chaque fois, lorsqu'il y a des avancements de grade, d'être obligé de reprendre une délibération. Imaginons par exemple que nous avons, nous ayons dans un effectif budgétaire 5 agents en possibilité d'être sur cet effectif budgétaire. Si on en a un sixième qui arrive, on est obligé de recréer, enfin de refaire une délibération, et il est beaucoup plus simple de laisser ce tableau-là, même si effectivement parfois on a des différences. Si je prends par exemple sur le adjoint administratif de première classe catégorie C, vous voyez que l'effectif budgétaire, on a 15 qui est retenu et nous avons effectivement pourvu seulement 9. Mais ça nous éviterait effectivement d'avoir... on pourrait ramener à 9, hein, mais si l'année prochaine, on a un agent qui est amené à être placé en adjoint administratif de première classe et qu'on n'a pas sur le tableau la place, il faudrait prendre une délibération, donc autant laisser ces postes-là. Et je le répète, ça n'a aucune incidence budgétaire, bien évidemment.
Des questions ? Oui, je vous en prie, monsieur Cécile.
Oui, monsieur le maire, donc bon, je viens de l'explication qui vient de nous être donnée, on apporte quelques précisions par rapport à ce tableau, mais je veux dire que le différentiel entre l'effectif budgétaire de 295 postes est quand même, je dirais, très important par rapport à l'effectif pourvu, qui lui est de 179 postes. Donc, bon, je veux dire que si on fait un ratio, en gros, c'est 60% l'effectif pourvu et de 60% par rapport à l'effectif budgétaire. Alors, effectivement, sur certains postes, il n'y a pas de... Je dirais, il n'y a pas de discussion possible. En revanche, sur d'autres postes, lorsqu'on voit que l'effectif budgétaire est de 14 postes, j'ai vu... pour l'emploi de l'agent social de 12e place, notamment, il y a 14 postes à l'effectif budgétaire et 2 postes à l'effectif pourvu. Donc là, il y a un delta qui est quand même très, très important. Et je veux dire, on peut se poser des questions s'il n'y aurait pas quand même, quelque part, un réajustement, si vous voulez, de l'effectif budgétaire par rapport à ce type de poste. Et alors j'avais également une deuxième remarque, puisque j'ai bien suivi les explications et que effectivement il faut au niveau de l'effectif budgétaire qu'il y ait, je dirais, la marge suffisante pour assurer la promotion légitime des agents qui ont une carrière qui progresse. Et j'ai remarqué que sur certains points, la situation de l'effectif budgétaire ne le permettait pas. Je prends par exemple la promotion légitime d'agent social de deuxième classe. Agent social de deuxième classe, je pense que c'est dans la filière médicale. Et je pense que ce n'est pas le seul cas, hein. Mais il y a des cas, si vous voulez, où effectivement l'effectif budgétaire et correspond à l'effectif pourvu et ne permet pas la promotion d'agents qui sont, je dirais, en seconde classe et qui légitimement pourraient passer en première classe. Donc, à mon sens, je pense qu'il y a peut-être une révision de ce tableau qui, justement, aux explications qui nous ont été données, pourrait permettre dans tous les corps, dans tous les emplois, une promotion sans qu'on revienne à chaque fois à une délibération pour créer un poste, pour créer un nouveau poste.
Monsieur Zeller, vous avez des éléments de réponse, d'appréciation ?
Oui, bon, si vous voulez, quand on regarde le tableau, il est évident, par exemple, je reprends dans la filière technique la dernière ligne, c'est-à-dire adjoint technique de seconde classe, où on a un delta assez important puisqu'on a 33 en effectif pourvu et 51 en effectif budgétaire. Donc on peut, pourquoi pas, effectuer un toilettage, cela étant, encore une fois, malgré tout, au-delà de ce toilettage, il faudra quand même conserver un delta suffisant de manière à ne pas avoir... Après, en ce qui concerne les agents sociaux, bon, vous prenez cet exemple-là, on a effectivement deux agents qui sont agents sociaux de deuxième classe, qui peuvent effectivement légitimement... être promu au grade d'agent social de première classe. Donc soit ils le sont par l'intermédiaire de concours, soit ils le sont par avancement de grade, par promotion. Là encore, on peut éventuellement le faire. Moi, je pense que pour ce point-là, il faudra qu'on voit avec la DRH si c'est nécessaire de le faire, si effectivement on a la possibilité, on a la nécessité de le faire. Par contre, effectivement, bon, comme je le reconnaissais, sur le point sur lequel vous êtes intervenu, on peut effectivement, dans certains domaines, diminuer le delta là où effectivement on a une très très grande marge. Mais je pense d'ailleurs qu'on en avait déjà parlé l'année dernière de faire un toilettage et bon, c'est tombé peut-être aux oublis.
Oui, parce que si vous voulez, bon, on a pour les agents sociaux de deuxième classe 14 postes en emploi budgétaire pour 2 postes en effectif pourvu. Et en première classe, 5 postes en effectif budgétaire pour 5 postes en effectif pourvu. Je pense que, même sans toucher à l'effectif budgétaire, qui encore une fois, je pense qu'il mériterait d'être revu, on pourrait glisser 2 postes d'agent social de deuxième classe, avoir 7 postes en effectif budgétaire pour les agents de première classe, ce qui permettrait la promotion des 2 agents. Alors, je ne connais pas la situation de ces 2 agents, mais... Voilà,
ce qui permettrait la promotion si effectivement ils peuvent être admis à l'avancement de grade.
Je dis bien, je ne connais pas la situation de ces agents, mais voilà, donc avoir un tableau qui permette effectivement l'évolution. Donc ça, c'était une remarque que nous souhaitions faire. Et puis également une dernière petite remarque, enfin plutôt un questionnement. Nous notons effectivement que dans le document. 14 agents sont affectés sur des emplois, je dirais, non titulaires, donc a priori contractuels. Donc, est-ce que vous pourriez nous préciser sous quelle forme de contrat et quelles seraient éventuellement leurs conditions de titularisation ? Parce qu'on sait bien que les emplois de non titulaires sont des emplois en simili précaires, même si effectivement leurs conditions ne sont pas forcément remise en question, mais sont des postes qui sont toujours un peu, incertains.
En ce qui concerne les non-titulaires qui sont sur des emplois permanents, donc on a effectivement principalement un attaché, un adjoint administratif et un adjoint technique. Ces agents-là peuvent être intégrés à la fonction publique territoriale en postulant aux sélections professionnelles. Personnellement, ça fait 4 ans pour le centre de gestion que je préside les sélections professionnelles. On a un certain nombre d'agents de la collectivité qui étaient dans le cadre, effectivement, qui est celui des trois agents attachés, adjoints administratifs et adjoints techniques. On a donc des agents qui se sont présentés à cette sélection professionnelle, qui consiste en un entretien avec un jury. Et à la suite de cet entretien-là, le jury décide si oui ou non ces agents peuvent être intégrés à la fonction publique territoriale. Donc, tous ceux qui veulent, effectivement, et je le répète, on en a eu un certain nombre, on a eu un certain nombre d'agents, en particulier, je pourrais citer, sans citer le nom, le directeur de notre service informatique, qui est passé par cette voie-là et qui a été effectivement intégré directement dans la fonction publique territoriale. Donc ça, c'est une possibilité pour chaque agent, mais ça n'est pas une obligation. C'est-à-dire que les agents qui ne veulent pas passer, qui veulent rester, qui ne veulent pas être intégrés à la fonction publique territoriale, peuvent ne pas l'être, effectivement.
Et quel est leur statut ?
Ils sont contractuels.
Ben, ils sont contractuels, oui. Contractuels. Ils restent contractuels.
Et sur un contrat à durée déterminée, oui, ou indéterminée ?
Contrat à durée déterminée.
Déterminée, renouvelable chaque année.
Voilà. Enfin, pas nécessairement tous les ans, parce que, par exemple, notre directrice des affaires culturelles, elle a un contrat à durée déterminée, mais ce n'est pas renouvelable tous les ans, monsieur le maire.
Et là, on a un problème de filière, donc... Voilà, c'est un cas particulier. Vous remarquerez que les non-titulaires sur emploi permanent concernent essentiellement nos assistantes maternelles, hein, pour lesquelles, de ce point de vue-là, la fonction publique territoriale ne prévoit pas une filière qui nous permettrait de les titulariser sur ce poste. Il va y avoir une évolution, hein, puisque je pense que dans le prochain tableau, la notion de non titulaire sur emploi permanent disparaît, et vous aurez une rubrique qui sera simplement contractuelle. Voilà, une grande différence. Bon, c'est vrai que non titulaire sur emploi permanent, c'était quand même sémantiquement, il fallait quand même aller le chercher. Donc derrière, ce sont forcément des contrats. On a eu un phénomène de titularisation relativement important, une intégration à la fonction publique, hein, pour certains cadres d'emploi qui jusqu'à maintenant n'avaient pas de possibilité d'intégration. C'est vrai sur la filière informatique où ça a été créé depuis relativement peu de temps, et on a encore des professions qui ne trouvent pas bien leur place dans la fonction publique territoriale. Ce n'est pas de notre fait. Hein.
Mais pour le catégoriser, je pense qu'il y a une possibilité d'intégration assez rapide.
Oui. Ça, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Ça tient à notre décision de ne plus remplacer des fonctionnaires qui ont quitté provisoirement la collectivité, soit en conservant une situation de détachement, soit en ayant demandé... une disponibilité. C'est vrai qu'il fut d'autres périodes, on remplaçait par des fonctionnaires titulaires, mais depuis quelque temps, on s'est aperçu que certaines aventures nécessitaient de s'arrêter, et puis nous avions des fonctionnaires qui revenaient dans la collectivité et qu'on avait un petit peu de mal à intégrer. Nous avons décidé de prendre la précaution de les remplacer par des contractuels. Voilà. Et ils seront remplacés par des titulaires lorsque il aura été mis fin en détachement par intégration dans un autre corps de fonction publique, ou lorsque les droits à disponibilité auront été purgés et qu'il y aura ou une démission ou une réintégration. Voilà. On a quand même aujourd'hui encore au moins trois agents qui sont dans cette situation-là et qui peuvent revenir à tout moment. Donc on est relativement prudent, donc ça alimente, bon, pour un cas, hein, cette colonne, non, deux cas. Voilà. L'adjoint administratif de deuxième classe et l'adjoint technique de deuxième classe sont effectivement en remplacement pour l'adjoint technique d'un détachement. Et pour l'autre, d'une disponibilité. Voilà ce que je voulais dire par rapport au toilettage. Très, très, très honnêtement, oui, il le faudrait. Très très honnêtement, nous avons un service des ressources humaines qui croule honnêtement sur des tâches qui sont sans doute plus importantes. Voilà. Hein, en 2015, il a fallu mettre en place le nouveau comité technique, le CHSCT, ça a été tout le travail, notamment sur la prévention des risques qui prend beaucoup. Et j'ajoute que le service des ressources humaines fonctionne avec un poste en moins par rapport à ce qui existait avant 2008. On n'arrive pas aujourd'hui à rebudgéter. Hein. Donc on essaie. Bon, je pense par contre ce qu'on pourrait essayer de convenir, c'est qu'à chaque fois que l'on crée un support budgétaire, qu'on veille à en supprimer un. Quoi. Ce qui permettrait déjà, sans rentrer dans l'idée d'un toilettage, d'éviter la situation. C'est vrai que l'année dernière, nous avions 282 postes de fonctionnaires pour 181 pourvus, et que cette année nous avons donc 295 postes budgétaires pour 179 pourvus. On est effectivement un peu en inflation, peut-être pourrions-nous avoir cette réflexion-là. Ça n'ajouterait pas trop de travail au service des ressources humaines. Simplement, donc on continuera bien entendu de créer des postes à chaque fois qu'on en a besoin, mais peut-être voir si à l'occasion, en regardant si on peut diminuer au moins du même effectif, voire peut-être de plusieurs postes dans certaines catégories. Voilà, donc je crois que ce qui est important pour vous, c'est que vous ayez bien la perception des mouvements, donc un peu moins. Deux fonctionnaires en moins, autant de contractuels, même s'ils ont un petit peu changé, hein, un petit peu moins d'assistantes maternelles et un adjoint administratif en plus, un contrat aidé qui a été pourvu en plus, et trois apprentis en moins. C'est vrai que jusqu'en 2015, nous avions là une belle... fait un beau travail en termes d'apprentissage que nous maintenons, mais là bon, ça dépend aussi des opportunités et des candidatures que nous avons.
Simplement deux points sur lesquels je voulais revenir, parce que monsieur le maire a fait état du travail très important mené par le service des ressources humaines. Il a énuméré un certain nombre de dossiers qui ont été mis en place. Je voudrais également rajouter le fait que en 2015, il y a eu un énorme travail qui a été conduit autour du document unique. Le document unique, son nom est un peu curieux, parce qu'on a l'impression qu'il veut tout dire. En réalité, bon, c'est très bien, on pourrait parler longuement du document unique, et je veux dire qu'il y a eu autour de ce travail-là un comité de pilotage et un groupe de travail qui a œuvré dans le deuxième semestre 2014 et le premier semestre 2015 de façon extrêmement compétente et complète. Et on a un document unique qui a été élaboré avec ce comité de pilotage et en relation avec l'ensemble des services. On a eu de la part de non seulement des directeurs, mais également de l'ensemble des agents qui ont voulu participer, on a eu véritablement un très très gros travail qui a été fait, et je voulais insister là-dessus. Deuxième point, tout à l'heure je parlais des sélections professionnelles. C'est un dispositif qui a été mis en place il y a 4 ans, et c'est vrai que ça permettait aux contractuels qui souhaitaient entrer dans la fonction publique territoriale de le faire par cet intermédiaire-là, plutôt que de passer un concours dont on sait très bien. Les concours sont par définition complexes, difficiles, et par le fait même que c'est un concours, il y a une sélection extrêmement drastique qui se met en place. Je ne veux pas dire par là que les sélections professionnelles aient été des jurys où on banalisait et on acceptait d'intégrer n'importe quel agent. D'ailleurs, pour le dire très tranquillement, la première année, nous avions 4 jurys qui ont fonctionné pendant 5 jours. Aujourd'hui, enfin cette année pour 2016, on aura un seul jury sur une seule journée. Donc ça veut dire qu'il y a eu effectivement beaucoup d'agents qui sont passés par cette passe-là. Mais je veux dire aussi que nos agents à Nangy qui sont passés par cette sélection professionnelle ont été intégrés à la fonction publique territoriale sur leur qualité professionnelle réelle. Et ça n'est pas un blanc-seing. Simplement pour donner une petite idée, la première année, on a quand même eu 40% de l'ensemble des agents qui se présentaient sur le département, 40% des agents qui avaient été évincés. Voilà, donc je veux dire par là que nos agents, comme les autres agents dans d'autres collectivités, qui sont passés par cette case-là, sont véritablement des agents de qualité.
Merci Monsieur Veller, Monsieur Saussier.
Je pourrais tout simplement préciser que
dans le micro, Monsieur Saussier. Pour l'enregistrement.
Non, je voulais tout simplement préciser que mon intervention ne portait nullement sur la qualité et les compétences du service. Simplement, c'était une remarque sur le tableau budgétaire. Hein, pour le reste, je veux dire, j'ai jamais mis en cause la qualité professionnelle.
Nous ne l'avions pas compris autrement.
Je vous remercie.
Est-ce que je peux mettre cette délibération au point, monsieur
La question qu'on se posait, c'était dans le sens où les contrats en CDD, on peut les renouveler, mais c'est limité.
Absolument.
Donc, comment peut-on faire parce que s'ils sont en CDD, on ne peut pas les garder de façon indéfinie.
Non. C'est un problème. Oui, c'est clairement une difficulté et en même temps on ne peut pas mettre notre budget en péril par des agents qui reviendraient, qui se retrouveraient en surnombre et du coup qu'on aurait un peu de mal à affecter. Parfois on peut trouver de belles opportunités. Il y a un certain secteur où, parce qu'un agent était revenu, qu'on connaissait ses compétences, on a fait le poste, je dirais, un peu sur mesure, tout en étant extrêmement utile à la collectivité. Mais parfois, c'est pas si évident que ça. Mais vous avez raison, le CDD a des limites, ce qui est normal d'ailleurs, hein, on ne devrait pas... en abuser, même si dans la réalité, je connais des tas d'endroits où on peut rester en CDD fort longtemps. Suffit, bon, voilà, vous modifiez la mission, puis hop, c'est reparti. Je peux mettre aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le tableau donc, est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer donc à la partie crèche et halte garderie avec la délibération 2016 janvier 006 portant sur la convention d'aide financière à l'investissement avec la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne pour l'aménagement d'un local de stockage des couches à multi-accueil. Madame Bougédi, s'il vous plaît, je vous donne la parole.
Messieurs, dames, bonsoir. Effectivement, la crèche a fait des travaux pour accueillir, en fait, pour stocker des couches. Donc la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne consent au gestionnaire de l'aide financière de 2032 euros au titre de fonds d'accompagnement à la PSU pour l'aménagement d'un local de stockage des couches du multi-accueil. La commune de Nangy s'engage à utiliser le montant de l'aide financière allouée et de faire fonctionner effectivement l'équipement bénéficiaire durant une période de 5 ans. Il s'engage notamment à faire mention de l'aide apportée par la CAF dans les informations et documents administratifs destinés aux familles. L'aide financière sera versée sur justification de l'exécution de la totalité des dépenses prévues initialement et sur présentation de la liste récapitulative des factures d'équipement et les photocopies des factures correspondantes. De l'état de réalisation de l'opération, du plan de financement définitif équilibré détaillant d'une part le coût de l'opération et d'autre part le financement obtenu. Étant donné que les travaux sont terminés et que le local est utilisé pour le stockage des couches, il ne reste plus qu'à signer la convention et fournir le justificatif demandé pour le versement de la subvention en 2016. Alors en fait c'est pour avoir aussi, on a fini les travaux, on a stocké les couches, on n'a plus que la signature pour la convention Et les...
Parfois, les travaux vont plus vite que la signature des conventions. C'est un peu l'habitude avec la question familiale. Bon, c'est une délibération qui peut prêter à sourire, mais nous avons eu un échange important avec la CAF à ce sujet-là, parce que bon, très honnêtement, nous n'étions pas des gens farouchement favorables à ce que nous fournissions les couches.
On n'avait pas le choix.
D'accord, je sais bien, parce qu'on considérait bien souvent d'ailleurs les familles préféraient avoir le choix, ce qui n'est donc plus le cas, la CAF considérant que c'était une amélioration apportée aux familles, et par contre nous ça nous contraint donc à acheter, à stocker, à transporter, enfin bon c'est pas...
À savoir en fait... On a une subvention là, de 2032 euros par rapport aux travaux qu'on a effectués dernièrement, mais après, les couches, il va falloir les payer, et ça chaque année. Voilà. Et c'est une circulaire qui a été, il me semble, faite en 2014. Donc on n'avait pas trop le choix, malheureusement.
Voilà. Des questions là-dessus ?
Une petite question simplement sur l'achat des couches. Est-ce que vous avez le droit d'acheter les couches que vous voulez ? Parce qu'il y a des phénomènes d'allergie, notamment d'érythème fessier suivant les gamins. Donc est-ce que vous avez une seule marque ou est-ce que vous avez le droit de choisir ?
Il y a un marché, il me semble.
Oui, oui. Alors, c'est un marché. C'est un marché donc, qui porte effectivement sur des couches de différentes tailles. Il y a un cahier des charges qui a été rédigé par notre directrice. Mais,
pour le moment, ça fait 2 ans, il n'y a jamais eu de soucis au niveau des... Et ouais. Les parents ils sont très contents d'avoir des couches gratuites.
mais effectivement, on pourrait rencontrer ce type de problème. Et dans ce cas,
il y a des enfants atopiques et donc qui ne supportent que certaines couches. Donc c'est pour ça. Donc si vous avez un marché obligatoire,
oui. Après, je pense qu'on sera obligé de faire comme pour les repas hein, avec les enfants qui ont trop d'allergies, ils fourniront.
Qui fourniront. Ouais.
Pour le moment, on n'a pas de cas.
D'accord. Voilà, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, on l'a fait, donc là, on aura royalement 2000 euros, c'est parfait. Bon, c'est les gens qui veulent le refuser, mais je me vois quand même. qui s'y oppose, qui s'abstient, délibération est adoptée à l'unanimité. Les trois dernières délibérations portent sur l'activité jeunesse. Nous aurons donc la délibération, pour commencer, délibération 2016 janvier 007, concernant une convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne, relatif au soutien des projets élaborés par des adolescents et la favorisation de leur autonomie. Madame Charette, vous avez la parole.
Oui, bonsoir. Donc, c'est un appel à projet auquel on a répondu en 2015. Donc c'est pour des financements en 2015, 2016 et 2017. Nous avons reçu l'accord comme quoi nos projets étaient retenus. Donc nous vous proposons de signer cette convention afin d'obtenir un certain nombre de subventions pour ces 3 années. Donc dans la CAF, ces projets doivent permettre aux jeunes de s'autonomiser en les associant à l'élaboration des actions les concernant, de susciter leur initiative en favorisant leur prise de responsabilité, de contribuer à leur épanouissement et à leur intégration dans la société en favorisant l'apprentissage de la vie sociale ainsi que l'investissement dans la vie de la cité. Donc le service municipal de la jeunesse valorise et présente dans le cadre de cette demande de subvention les actions menées en partenariat initiées par l'instance de démocratie participative jeunesse qui est le conseil local de la jeunesse. Donc sur 3 ans, actions citoyennes de 2015 à 2017, réunions d'échange, de réflexion et de dialogue, amélioration du cadre de bruit, projet d'aménagement du parc, champ de coopération entre élus du CLJ et puis bien d'autres encore. Donc la demande de subvention est établie à hauteur de 15 000 euros pour l'ensemble des projets des 3 années répartis de la façon suivante, donc 5 000 euros chaque année. Le versement de l'aide s'effectuera en fonction des critères définis ci-dessus et des pièces justificatives produites au plus tard le 30 juin de l'année N+1. Donc il est demandé au conseil municipal de se positionner sur cette convention. Je vous remercie.
Merci Madame Charret. Bon, nous sommes un peu en retard pour 2015, mais nous sommes quasiment à l'heure pour 2016 et même en avance pour 2017.
Voilà. Après, rare. On ne pouvait pas signer une convention qu'on n'avait pas. Donc, on fait tout.
Voilà. Des questions, des commentaires? Non, je mets donc cette délibération aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Va être adopté l'unanimité. Madame Charest, je laisse la parole concernant la délibération du 16 janvier 008 concernant un complément de tarification de participation aux activités organisées par le service municipal de la jeunesse pour l'année 2016, qui concerne plus particulièrement une session de formation au BAFA.
Oui, donc dans le cadre des projets réfléchis par le CLJ, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur BAFA, a été l'un des premiers projets proposés en 2013-2014 par les jeunes élus. Donc au renouvellement du conseil local de la jeunesse en mai 2015, un petit groupe de travail animé par l'équipe jeunesse s'est constitué pour faire avancer ce projet. Donc le service municipal de la jeunesse, via l'accueil et l'accompagnement des jeunes d'Angiciens au sein du point information jeunesse, a également constaté une forte demande d'information et d'orientation vers des organismes de formation spécifiques. Donc il faut savoir que la formation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur comporte trois étapes, une formation de base de 8 jours minimum, le stage pratique de 14 jours et ensuite une session d'approfondissement de 6 jours au moins ou de qualification de 8 jours. Donc ce brevet volontaire est délivré par le ministère de la Cohésion sociale, de la jeunesse et des sports et détermine l'entrée à certaines écoles et formations dans les secteurs du social, de l'éducation spécialisée et de l'animation professionnelle. Par ailleurs, le BAFA est un levier d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes, car ces derniers décrochent très souvent leur premier emploi à l'obtention du brevet et peuvent étoffer leur expérience dans de multiples domaines. De plus, la formation dispensée y est conséquente et favorise ainsi l'autonomie et la responsabilisation du jeune. Dans l'objectif de continuer à conduire à développer des actions éducatives et citoyennes en direction des jeunes du territoire, le SMJ met en place une session de formation de base de 30 stagiaires ouverts aux jeunes de 17 ans révolus à 25 ans durant les vacances d'hiver 2016. Et afin de faciliter l'accès au plus grand nombre de jeunes, car l'inscription individuelle de ce type de formation peut être très onéreuse pour certains jeunes ou certaines familles, en moyenne à peu près 800 euros, la ville a souhaité organiser in situ cette formation et propose une aide financière de 50 euros par stagiaire non-gicien, déduite du coût fort tarifaire émis par l'organisme de formation. Donc, ce qui est quand même un engagement conséquent pour la ville, mais il nous semble important de pouvoir aider ces jeunes qui, voilà, on sent que c'est vraiment une demande et ça pourra les aider ensuite à trouver un premier job l'été et puis à faire des petits boulots et à financer pour certains leurs études, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc, outre cette aide financière, il est précisé que la ville prendra également en charge l'hébergement des formateurs.
Il y en a trois.
Oui, il y en a trois. Et le repas des stagiaires, ainsi que la mise à disposition des locaux pour le déroulement de cette session. Donc ce n'est que grâce à cette prise en charge que le CLJ a pu négocier ses tarifs à la baisse. Donc, par souci pratique, la ville de Nangis avancera les frais d'inscription auprès d'organismes de formation et percevra directement les recettes. Il manque un S à recette auprès des stagiaires. Donc la participation financière demandée est la suivante. Les stagiaires nangiciens, donc 225 euros et les stagiaires extérieurs, 275 euros. Voilà.
Voilà, merci Madame Charest pour cette présentation très, très exhaustive d'une action, je crois, qui a effectivement beaucoup de sens et qui me paraît extrêmement, extrêmement utile vu les coûts parfois extrêmement conséquents qui sont demandés souvent aux familles. Très très peu d'employeurs qui financent, nous en finançons un certain nombre, hein, nous en financions pour les accueils de loisirs, maintenant c'est la communauté de communes qui le fera, nous en finançons également pour dans le cadre des activités périéducatives ou dans le cadre des APPS, mais la plupart du temps ce sont les familles qui financent une formation qui se déroule en trois temps, un stage de base, c'est le cas de cette formation, un stage pratique en activité dans un centre de loisirs ou dans un centre de vacances, et puis un stage de perfectionnement ou de spécialisation qui vient renchérir le coût. Ce qui signifie qu'il faudra sans doute qu'on réfléchisse ensuite à cette deuxième étape l'année prochaine, en sachant que là, si on a effectivement jusqu'à une trentaine de stagiaires, par contre, il leur faudra trouver un lieu de stage pratique, en sachant que là, on ne sera sans doute pas en capacité de les absorber tous.
Puis Je voudrais juste rajouter que pour ce genre de formation, les aides auxquelles peuvent bénéficier les familles sont très rares.
Donc
quasi inexistantes. C'est très compliqué. Donc c'est vraiment, et ça a vraiment été depuis 2-3 ans, une demande qui revient très régulièrement au sein de la structure. Donc il nous a paru intéressant de pouvoir aider les jeunes dans cette démarche-là.
D'accord.
Et je tiens à dire qu'ils ont quand même, ils se sont très fortement investis et voilà, c'est intéressant de voir aussi comment ils s'emparent de leur projet.
Merci. Pour que l'information du conseil soit totale, nous avons obtenu une aide de la caisse d'allocation familiale pour l'aide à la formation dans le cadre donc du BAFA pour nos vacataires, enfin nos intervenants dans le cadre des activités périscolaires. Une aide de 2000 euros, si je me souviens bien, hein, Madame Molas. Voilà. On avait demandé un peu plus. Voilà, des questions ?
Une petite question.
Monsieur Barreau, allez-y.
Donc, la formation BAFA donc, est très intéressante, le soin pour les jeunes, et comme vous le dites, ils se sont impliqués. Donc, c'est un levier justement d'insertion socio-professionnelle. Donc, on avait réfléchi à une chose, pourquoi pas envisager, bien sûr, si le budget le permet, l'accès à cette formation donc, pour une somme qui serait nettement moins importante pour les Nangiciens, notamment, mais en échange, de leur demander un engagement vis-à-vis de la ville. Et de voir, de faire soit un encadrement en périscolaire ou en accueil de loisirs, ou voir après, pareil, au niveau de la communauté de communes, un engagement de 3 ans ou de 5 ans pour ces jeunes. Donc ça pourrait peut-être les intéresser un petit peu plus, ça peut peut-être les motiver encore plus.
Oui, c'est une idée à creuser. Le problème, là, c'est qu'à la fois, nous avons une formation qui va atteindre... Madame Charest, vous voulez peut-être intervenir.
Allez-y, monsieur.
Je vous en prie, je retire ce que j'allais dire. Et Madame Charest, je vous donne la parole.
Non, oui, monsieur le maire complétera. Non, je ne sais pas qu'il y a quelque chose pour compléter. Donc, non, oui, effectivement, nous y avons réfléchi. Et c'est vrai que dans la mise en place, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Surtout qu'actuellement, les centres d'accueil sont intercommunaux. Donc, c'est encore ce serait des conventions à passer et tout. Et il n'y a pas que Nangis qui peut proposer ce type d'aide. Donc, il faut une certaine équité au sein de l'intercommunalité. Donc, dans un premier temps, parce que là, les inscriptions sont ouvertes depuis mercredi, on a déjà 18 inscriptions. Donc, il n'y aura aucun mal à ce qu'il y ait les 30 inscriptions d'ici. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a commencé à mener, qui pour cette année était trop courte au niveau de temps pour la mise en place, mais auquel, effectivement, on va peut-être continuer de réfléchir et voir s'il est vraiment possible ou pas de la mettre en œuvre.
Voilà, la question, c'est qu'on ne pourrait pas faire cette proposition à l'ensemble des stagiaires, ce qui nous poserait un problème de sélection. Certains pourront bénéficier et d'autres pas. Compliqué quand même, là, il faudrait mettre en place des critères. Donc on a préféré essayer de créer des conditions pour qu'un organisme qu'on ne connaissait pas, hein, voilà, on va faire le test de cet organisme dont le siège est à Lyon. Hein, bon, mais qui a déjà 25 ans d'activité, mais qui ne correspond pas, c'est pas les organismes auxquels on est plutôt habitué à travailler, qui eux n'étaient pas en mesure de nous faire une formation in situ. Mais le fait que l'on propose d'héberger la formation, de prendre en charge donc les repas de midi, cette formation, les frais d'hébergement des formateurs qui, eux, se déplacent, nous ont permis effectivement là de baisser considérablement le coût de la formation, plus, je dirais, voilà, une aide de 50 euros supplémentaire pour les Nangiciens. Bon, c'est déjà pas mal. Mais bon, ça aurait pu, effectivement, je pense que c'est quelque chose sans doute à creuser. Quelquefois, ce sont des choses, des projets qu'on met en place, notamment pour aider à financer le permis de conduire aussi, hein, pour lesquels il n'y a pas beaucoup d'aide. Et on sait qu'aujourd'hui, pour se professionnaliser, sans le permis, sans le véhicule, c'était très très compliqué. Donc le fait de pouvoir peut-être réfléchir à un financement en contrepartie d'une activité pourrait être. Voilà. C'est en réflexion. Bon, il y a quelques obstacles. Pourquoi pas. Je peux mettre aux voix. Qui s'y oppose, qui s'abstient. La délibération est adoptée à l'unanimité. Enfin, la dernière délibération, demande de subvention pour un appel à projet, événement régional, information jeunesse autour de l'Euro 2016.
La région Île-de-France, comme chaque année, lance un certain nombre d'appels à projets. Cette année, un des thèmes qui a été retenu par le service municipal de la jeunesse a été donc l'Euro 2016. Donc, en effet, la ville de Nangis, via son point information jeunesse, participe pour la troisième année consécutive à ces événements. Et donc, cette année, elle proposera des actions autour des thèmes spécifiques de l'Euro 2016. Donc, pour rappel, en 2015, c'était l'égalité professionnelle filles-garçons qui a très bien fonctionné. Et en 2014, le festival diversité et culture urbaine. Donc, en effet, l'organisation de l'Euro 2016 sera suivie par de nombreux jeunes du territoire qui apprécient et se retrouvent autour de cette activité, la pratiquent régulièrement et lors de leur temps libre, par exemple, comme le futsal, les lundis pendant les vacances scolaires avec le SMJ. Donc ils échangent aussi très régulièrement sur les matchs et partagent des rencontres entre acteurs locaux et des associations sportives. C'est ainsi que des partenariats seront recherchés avec les associations, le S Nangis Football, Futsal, Entre Amis, MAC et Espoir. À cela s'ajouteront des actions conjointes avec les services municipaux des sports, de la vie locale et les médiateurs. Le projet présenté développera sur la période concernée, donc 10 juin au 10 juillet 2016, des actions culturelles, sensibilisera à la mobilité internationale, aux cultures européennes et à l'engagement, avec notamment un stand d'information PIGE, informera sur les métiers et les filières du sport lors d'un swap dédié avec la participation de deux jeunes Nangiciens au cours de formation STAPS et favorisera la mixité intergénérationnelle. Voilà, ces activités seront organisées et intégrées dans la programmation jeunesse des mercredis et samedis du mois de juin et se finalisera par une action phare, le foot dans tous ses états, dans le cadre des animations d'été, mercredi 6 juillet de 14h30 à 18h30. Donc la demande de subvention est établie à hauteur de 3000 euros pour ce projet. Le dossier sera étudié par un comité de sélection régionale et jugé recevable selon des critères d'éligibilité. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son adjointe à déposer la demande de subvention. Je vous remercie.
Merci Madame Charret. Des questions, des interventions? Non, pas de souci avec l'Euro 2016. Donc je mets aux voix qui s'y oppose, qui s'abstient. La délibération est adoptée à l'unanimité. Et nous avons épuisé l'ordre du jour. Donc je note que l'année 2016 commence plutôt bien, puisque nous avions 9 délibérations, elles sont toutes adoptées à l'unanimité. Voilà. Nous verrons si ça peut continuer comme cela. Bon, il faut avouer que ce n'est pas des délibérations non plus très clientes. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.